Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Dwayne.
Hello tout le monde.
De Baldren.
Salut à tous.
Et d'ATH.
Bonjour, bonsoir.
Au sommaire de l'actualité, cette semaine, on vous parlera des 20 ans de TIFF, on enchaînera ensuite sur Bilo, nous évoquerons Fallout 76, encore lui, on parlera de Steam, et enfin, on terminera par The Big One, les Game Awards, et oui, il y a eu la cérémonie où tout le monde se suce les boules cette semaine, n'est-ce pas? C'était fort passionnant, et c'était tellement passionnant d'ailleurs qu'on ne vous parlera pas du tout des nominés, et on ne vous parlera que des annonces, parce que tout le monde le sait, hein, on s'en tape des Game Awards. Ce qui nous intéresse, c'est les annonces. Voilà. Donc, c'est parti pour l'actualité cette semaine, messieurs. On va commencer par les 20 ans de TIFF. La news du tyran qui part tout seul, n'est-ce pas? À savoir que les fans de TIFF ont décidé pour les 20 ans que ils allaient sortir 24 nouvelles missions téléchargeables, comme ça, hein, parce que pourquoi pas. Je vous mettrai un lien qui détaillera tout ça, comment installer, etc. Parce que c'est quand même un vieux jeu, il faut les installer, les modes, tout ça. Mais connaissant la communauté de TIFF, je ne doute pas que ce seront des modes de qualité. Et bon jeu. Voilà, c'est tout ce qui me reste à vous dire. Quelque chose à ajouter, messieurs?
Bon anniversaire.
Faudrait que je mette le générique du club Dorothée. Joyeux anniversaire. Heureux anniversaire.
Oh, moi j'ai dégoûté, j'étais dans le club Dorothée, j'avais jamais mon prénom dans le générique.
Ils avaient déjà repéré que t'étais un troll à TH, je pense.
Vu que j'ai pas un prénom commun, du coup, je pouvais regarder le générique mille et une fois et il est jamais apparu. Et c'est triste.
Une blessure d'enfance.
Oh putain. Bon. On va enchaîner, messieurs, et on va parler d'un jeu que il faut qu'on en parle, parce que sinon je pense que tout le monde va oublier qu'il va sortir. C'est Bilo qui a dit ça fait quelque temps qu'on a annoncé ce petit jeu, je crois que c'est 2013. On sort le 14 décembre, salut. Alors, Bilo, pour rappeler, c'est ce jeu absolument magnifique en vue du dessus. Alors, est-ce que j'oserais dire que c'est le Dark Souls du jeu?
Oh non, tu peux pas faire ça.
Pas toi, tyran.
Après tout ce que tu as fait.
Je déconne. Bon, en tout cas,
ça, pas maintenant.
C'est un jeu action-aventure en vue du dessus, avec une ambiance assez sombre, etc. Et surtout, un jeu qui essaye de vous donner le vertige en vous faisant sentir que vous êtes un tout petit personnage qui se bat dans des décors absolument immenses. Et donc, ça fait perpète qu'ils ont annoncé ce jeu-là. Ils se sont dit, en fait, on sort la semaine prochaine. Ce serait bien que vous nous oubliez pas. Donc, Dwayne, est-ce que tu es enthousiaste?
Totalement. Après, Capybara, c'est un studio que j'aime bien. Ils avaient fait Super Time Force. Enfin, c'est l'un des derniers jeux qu'ils ont fait. Puis avant, il y avait un Sword and Sorcery, enfin, que j'ai moins connu. Moi, je les ai connus à partir de quand ils ont annoncé Super Time Force. Et c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Par contre, le truc, ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont annoncé Super Time Force. Ensuite, un an après, ils ont annoncé Bilo. Donc Super Time Force, il est sorti il y a 4 ans. Et Bilo, ça fait 5 ans qu'on l'attend. Ils ont quand même pris le temps, vu que Super Time Force a super bien fonctionné, donc ils...
Sword and Sorcery, avant lui, avait bien marché aussi, je crois, hein. Donc...
C'est ça.
Ils ont du pognon.
Et juste, entre-temps, ils ont fait aussi des petits trucs de commande pour, il me semble, Cartoon Network et autres. En tout cas, ouais, le jeu a l'air vraiment magnifique. La team a pris son temps pour travailler le gameplay au max, donc franchement, 14 décembre, je suis présent. En plus, pour ceux qui sont peut-être sur Xbox, il sera inclus dans le Game Pass, en fait.
Parce que je crois qu'ils avaient un partenariat aussi avec Microsoft. D'ailleurs, c'est la conférence Microsoft, il me semble, qui avait été dévoilé ce jeu-là.
C'est vrai.
Donc, on espérera qu'il sera à la hauteur des attentes, hein, parce que, depuis le temps qu'il se fait désirer, celui-là, ATH.
Oui, rappelons que le jeu sort sur Xbox One. Et également sur PC et plus particulièrement sur Steam. Si vous avez écouté 2-3 podcasts en arrière qu'on avait fait, quand on parlait de vide dans le jeu vidéo, je pense que ce jeu-là, c'est un jeu qui illustre parfaitement ce qu'on a pu dire dans ce podcast. Vraiment, quand tu regardes les décors, c'est très épuré. Et donc après, il faudra voir si c'est intéressant à suivre sur le long terme, mais la direction artistique, en tout cas, est assez charmeuse.
Soyez assurés, en tout cas, qu'on en reparlera, celui-là, parce que je sais que y a pas mal de gens qui sont chauds ici, hein, pour s'y essayer. On va enchaîner, messieurs. on va parler de notre éditeur préféré, hein, c'est Bethesda. En ce moment, on les aime beaucoup, Bethesda. Il nous faut bon courrier, donc.
Mais je crois que c'est réciproque, en fait. Hein. Ils nous aiment tout autant que nous, on les aime en ce moment.
En tout cas, ils aiment pas beaucoup leurs clients. Alors, résumé des épisodes précédents, hein, Bethesda fait de la merde en sortant un Fallout 76 catastrophique. En plus de ça, ils décident de se mettre tous leurs super fanados, vous savez, ceux qui lâche 200 boules pour des éditions Supra Collector, en décidant que, bah, vous savez, votre sac, là, en toile, qui était bien mis en avant dans les images de l'édition Collector, finalement, on va vous en mettre en nylon bien dégueulasse, hein, vous voyez, tout froissé, tout pas beau, etc. Donc, bah, finalement, après s'être pris une volée de bois vert à ce sujet, ils ont dit, hop, 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 on a retrouvé les stocks de toile, calmez-vous.
Oh bah ils étaient là en fait Jean-Jacques, fallait me le dire.
Ah non, excusez-moi, c'est vrai, j'ai oublié une chose. Il y a eu un autre scandale entre-temps, à savoir que les gens se sont rendu compte que bizarrement, les influenceurs, enfin vous savez les youtubeurs, les twitchers, etc., eux, ils avaient eu droit gratos à un sac qui a 1000 fois plus de gueule en plein. Donc forcément, vous voyez, les gens commençaient à être légèrement énervés. Hein, donc ils se sont dit, ok, d'accord, là je reconnais, ça la fout un peu mal. Donc si vous envoyez un ticket au support, écoutez, le support se chargera de vous faire parvenir le sac en toile. Pas de souci.
Mais
bon, sauf que
il y a un mais.
Putain, c'est un sketch.
Oui, sauf que bon, évidemment, si derrière tu lis que toutes les infos de tes clients à cause d'un
tu vas y arriver, tu vas y arriver.
Bah, disons qu'il y a eu un petit bug et que du coup les infos de pas mal de clients étaient disponibles en clair. Bon, j'espère en tout cas que aucune personne mal intentionnée, n'est-ce pas, n'a pu récupérer ces infos parce qu'apparemment il y avait une partie des numéros de carte de crédit notamment qui était visible.
On aime.
En tout cas, GG Bethesda, hein, moi j'avoue que là, chapeau l'artiste, non mais voilà, je m'incline.
Moi je me demande quand même s'il y a, si c'est pas fait exprès tout ça, pourquoi on parle du jeu?
Ou alors, ils ont un chat noir dans les locaux de Bethesda.
Ah oui, non mais c'est ouf quand même, parce que tu te dis quand même, au final, grâce à ça, on parle de toutes les semaines, hein, depuis un mois, c'est fou quand même. Hein.
Ah oui.
La stratégie de la terre brûlée.
Alors, c'est vrai que ça marche maintenant, mais sur le long terme... C'est une stratégie discutable, en tout cas. Voilà.
Mais il faut quand même signaler que c'est pas une fake news.
On pourrait douter, mais non, hélas, on est bien dans un monde réel. Donc, ils se sont dit, non, en fait, je sais ce qui s'est passé. Ils ont fait un pari avec Blizzard. Ils ont gagné, voilà. Non, mais, pourtant, Blizzard avait mis le paquet, vous voyez. Hein, mais
oui,
là,
ils avaient fort.
Encore une fois, chapeau l'artiste. Bon, allez, on va enchaîner, messieurs, et on va parler de notre plateforme préférée, n'est-ce pas? Je sens que je vais encore me faire critiquer dans les commentaires après cette news, je sais pas pourquoi. On va parler du bullshit de Steam. Hein. Il se trouve que Valve a fait une annonce récemment. Ils ont enfin répondu à une demande que pas mal de monde leur faisait depuis un moment. À savoir que, vous savez, ça fait pas mal de temps qu'il y a pas mal de personnes qui disent, en particulier des gros éditeurs, mais pas que, écoutez, au vu des services que vous nous rendez, vous nous prenez 30% sur toutes les ventes, ça nous paraît pas très réglo, quoi. Enfin, quand même, vous faites le service minimum, tout ça, donc bon. Et puis d'ailleurs, si vous êtes pas content, hein, on se casse, hein, parce qu'on fait pas mal d'éditeurs, hein, on l'a vu... Enfin, réalisez quand même qu'il y a des trucs énormes, on voit plus Call of Duty, par exemple, sur Steam, vous voyez. Mm-hmm. On voit plus les jeux Electronic Arts sur Steam. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de gros éditeurs, on va dire, qui se passent bien volontiers de Steam, quoi. Donc, Valve a enfin réagi, hein. Je vous ai compris, voilà. Alors, je vais pas vous donner les détails, mais en gros, plus vous vendez, moins vous verserez de royalties à Valve. Hein. Je vous laisserai aller regarder les chiffres, parce que les chiffres, c'est chiant, et on s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, ça ne concerne que ceux qui vendent beaucoup. Par contre, chez Valve, quand t'es un prolo, hein, tu payes le tarif maximum, hein, faut pas déconner non plus. Donc, les prolos, vous allez continuer de nous verser 30% de taxes. Et les riches, bah écoutez, on vous fait une ristourne, j'y vois là une résonance toute particulière, mais bon, ne nous avançons pas sur ce terrain miné, n'est-ce pas, messieurs?
Game Newell,
c'est le capitalisme, hein, c'est comme ça.
Game Newell, Macron, même combat, n'est-ce pas?
Là, c'est parti trop loin, là.
Donc, écoutez, messieurs, quelque ouais. chose à ajouter, parce que je sais pas en fait ce qu'on peut dire de plus, n'est-ce
pas? Il faut savoir que... En dessous de 10 millions d'euros, on va rester sur les 30% habituels, et que pour arriver à 20%, il faut que le jeu rapporte plus de 50 millions. Donc je pense que ça, il y a très peu de prétendants à ce titre-là. Et je trouve ça quand même assez petit de leur part de uniquement se rapporter sur le nombre d'argent que rapporte le jeu et pas sur le par exemple le nombre d'exemplaires de copies vendues, ce qui à mon sens serait un peu plus juste parce que tous les jeux ne sont pas vendus au même prix sur le store de Valve. Il y a des jeux qui sont à 60€, comme il peut avoir des jeux qui sont à 5-10€. Déjà, ça crée un déséquilibre par rapport à ça.
Ouais, déjà.
À savoir que toutes ces recettes, ça inclut aussi les prix des extensions et les prix des DLC. Des choses qui sont plutôt l'apanage de gros jeux. Donc forcément, ça aide d'autant plus à générer du bif. Donc clairement, là, Steam est en train de dire « Les mecs, par pitié, créez pas votre store. Restez chez nous. » Et c'est vraiment ça, hein. Ils sont battés couilles, en fait, de dire aux indés qui sont sur Steam « Vous inquiétez pas, les mecs, vous êtes choyés chez nous. » De toute façon, les indés, ils ont Steam et pas grand-chose d'autre en termes d'options.
Non, mais en plus, ils leur disent « Écoutez, je vais vous présenter un truc, ça s'appelle la théorie du ruissellement. » C'est-à-dire que regardez, les éditeurs, ils vendent beaucoup, donc ils attirent plein de gens, et du coup, grâce à ça, comme les éditeurs, ils vont revenir chez nous, hein, parce que évidemment, les éditeurs, après s'être fait chier à faire leur propre plateforme, ils vont revenir parce que Valve fait ça. Je sais pas, j'ai un air de déjà vu. Enfin,
il va falloir mettre un gilet jaune sur la vignette en fait de la semaine, c'est ça. Hein.
Sinon tu mets
pas. Il faut que tu le fasses, t'es obligé.
L'architecture du site tout en jaune.
Enfin bref. Non voilà, bon, les indés, hein, ils ont un peu le sentiment d'être pris pour des cons, ils auraient peut-être pas tout à fait tort. Bon après c'est un peu comme les prolos, hein, ils ferment leur gueule et puis c'est
Je
tout.
Je rajouterais sur les indés qu'un certain nombre de gens qui sont des développeurs indépendants et qui sont sur Steam ont noté assez récemment une chute très importante de leurs revenus via Steam. Et en fait c'est lié à l'algorithme de recommandation de Steam qui a priori aurait aussi shifté pour mettre en avant plus de gros jeux quoi.
Bah, donc, apparemment c'était un bug d'après Valve.
D'accord.
Après c'est ce qu'ils disent.
Oui oui.
Voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, nous allons passer à l'actualité suivante après avoir été sur un terrain glissant, n'est-ce pas? Nous allons maintenant parler, Morren, des Game Awards. Vous allez voir, il y a un petit lien aussi avec l'actualité que nous venons de traiter.
C'est vrai. En fait, on va vous parler des Game Awards, pas en long, en large et en travers, hein, vous nous connaissez. C'est une cérémonie annuelle qui s'est déroulée le 7 décembre dans la nuit chez nous. C'était à Los Angeles, c'était toujours présenté par notre ami Monsieur Doritos Jeff Keighley. Et évidemment, on s'en fout un petit peu de qui a été primé, etc. Parce que clairement, c'est pas l'intérêt de cette cérémonie. C'est beaucoup plus le carrefour d'annonces de jeux et de présentations, évidemment, de petites vidéos. Alors, beaucoup moins de gameplay, comme on peut le voir à l'E3, par exemple. Beaucoup plus de notes d'intention, par contre. Et notamment, beaucoup de jeux qui sont calés à un très vague 2019 et très peu de jeux qui sont véritablement annoncés dans leur date de sortie. Voilà, moi je voulais vous poser la question d'abord de est-ce qu'il y a des jeux pour vous qui vous sont venus en tête quoi?
Alors moi, évidemment, Hype Over 9000 pour The Outer Worlds par la team Fallout New Vegas, mais surtout un duo de créateurs réunis, à savoir Tim Kane d'un côté et de l'autre Leonard Boyaski, qui ont tous les deux bossé sur Arcanum, Engrenage des Sortilèges, qui avaient aussi bossé sur Vampire Bloodlines. Et rien que pour ça déjà, c'est la hype totale. Quand même, c'est des gens avec un CV pas dégueulasse, tu vois. Il y en a quand même un des deux qui a bossé sur Diablo 3 depuis. Enfin, voilà, c'est des gens quand même qui ont de l'expérience. Et surtout, ce qui a été annoncé, bon déjà, c'est clairement un énorme pied de nez à Fallout. Hein.
Oui.
Ça a l'air clair. La Bethesda, ils sont pris un dropkick dans la gueule. Alors, ils sont là en train de faire genre, ouais, mais non, on cherche pas du tout à... On n'a pas du tout l'air revanchard, là, face à Bethesda, etc.
C'est cela même.
Mais ils en profitent bien quand même. Et surtout, quand tu regardes le trailer, tu dis, les mecs, foutre de notre gueule, parce que déjà, rien que le passage, tu sais, face à deux personnages qui se disputent, il dit ouais bon alors va falloir que tu fasses un choix, et là le mec qu'est-ce qu'il fait, il en bute un des deux, tu vois, Et le personnage y répond, mais tu sais que t'étais pas obligé de les tuer, hein. Sérieux, me dites pas que c'est pas un troll vis-à-vis de Fallout 4, où c'est un des principaux reproches qu'on faisait à ce putain de jeu, c'était qu'il y avait pas tellement de choix, quoi. Donc, très clairement, c'est un jeu qui troll à fond Fallout 4. Ce qui est proposé en termes de gameplay, moi je suis hype over 9000. Enfin, très clairement, on nous promet des choix, des conséquences, etc. Bref. Mis à part peut-être la direction artistique qui m'a un peu déçu par rapport au premier visuel qui avait été montré, enfin, je trouve qu'elle est un peu sage finalement. Mais pour le reste, écoute, si le niveau d'écriture est digne des précédents jeux de ces deux gars-là, ça promet.
À noter d'ailleurs que The Outer Worlds donc est une production Obsidian. Mmh. Obsidian appartient désormais à Microsoft. Et du coup, j'étais assez intéressé de voir ce qu'il y aurait à la fin du carton. Où il y avait le titre et du coup la console sur laquelle ça allait sortir, et j'ai trouvé PS4, Xbox One et Steam.
C'est financé par Take-Two, hein. Attention.
D'accord.
C'est okay. Un des derniers projets que Obsidian va produire sans être financé par Microsoft, en fait.
Ça marche. Donc, ouais, tu fais bien de le préciser, du coup.
Parce que ce n'est pas Microsoft qui a la licence. Mm-hmm. Ça fait partie, vous savez, de ces projets un peu exotiques que finance Take-Two, notamment avec Ancestors, Humankind Odyssey, dont on ne va pas parler ici parce que tout le monde s'en fout.
C'est bien résumé.
Voilà. Alors, juste une petite remarque. J'ai vu pas mal de gens qui étaient déçus du fait qu'apparemment ce jeu-là avait une orientation très FPS pour ses phases de combat. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui a le cul entre deux chaises comme Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, etc. Bah moi, au contraire, je trouve ça bien parce que un des principaux reproches que je fais au Fallout récent, c'est qu'il n'assume pas le fait d'être des FPS, en fait. Et du coup, ça donne des jeux avec un gameplay mou du cul. Donc, pour peu qu'il fasse un bon FPS avec des phases de choix, conséquences et un système de perks intéressant, bah, je vois pas où est le problème, en fait. Hein. Dwayne ?
Bah, comme tu l'as dit déjà, celui qui ressort, bah, c'est effectivement The Outer Worlds. Après, c'est vraiment le truc où t'as un espèce de mélange, alors je vais un peu loin, mais entre un Fallout avec un Mass Effect, enfin, le délire un peu sci-fi, et puis cette espèce d'humour décomplexé qu'on n'a pas souvent finalement dans des productions de gros calibre, quoi. Après, je me faisais la réflexion, du coup, parce qu'il y a Fallout 76, mais il est attaqué de toutes parts. C'est-à-dire, il y a The Outer Worlds, il y a le Far Cry New Dawn, dont je parle rapidement. Personnellement, moi, Far Cry, après le 5, j'arrête. C'est terminé pour moi.
Ça sera le Far Cry primal de Far Cry 5, à savoir la même map, mais un univers un peu différent, quoi. Voilà.
Après, pour le reste, ouais, bon, Atlas par les créateurs d'Ark, ça a l'air un peu chaud. Déjà, Ark, est-ce qu'ils l'ont terminé sur PC, déjà?
On va se tourner vers le spécialiste, Morgan.
Alors, craquement de doigts. Ark Survival Evolved, officiellement, il est terminé. Il est sorti d'Early Access, il y a une pléthore d'extensions. Je vais pas revenir là-dessus, sur ce que j'en pense. Moi, c'est un jeu que j'ai complètement arrêté. Au moment où il est sorti, d'ailleurs. Et donc, autant vous dire que leur nouveau projet, qui n'est pas signé Studio Wildcard en soi, puisqu'ils ont créé un rejeton qui s'appelle Grapeshot Games, mais qui est clairement créé par les fondateurs de Studio
putain,
Wildcard.
Société écran, quoi.
Oh putain, ouais. Mais ouais, mais c'est ça.
Donc, voilà, c'est aussi bien pour dire que Studio Wildcard continue à travailler sur Ark et que ça ne gênera pas le développement d'Ark et de ses autres tirages de vaches à lait.
Bon, ça, on leur fait confiance, hein.
Oui, oui. En l'occurrence, Atlas, qu'est-ce que c'est? Alors, pensez simplement Sea of Thieves. Voilà. D'ailleurs, il me semble que certains d'entre nous avaient compris que c'était Sea of Thieves.
C'est ça, j'ai cru que c'était une extension, et puis finalement, après, j'ai vu Atlas, et j'ai vu les mecs d'Ark.
Tu t'es dit, putain, bien. Tiens, enfin du contenu dans Sea of Thieves. En fait, non, c'est pas Sea of Thieves. Ok. Alors, juste pour préciser un petit peu l'ambition d'Atlas, et pour vous faire comprendre que c'est clairement les mêmes développeurs, parce que ils sont en train de vous annoncer n'importe quoi, et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé sur Ark Survival Evolved. Ils prennent une approche MMORPG sur la piraterie, dans un monde qui est censé faire 45 000 mètres carrés, 10 régions distinctes, et dedans, il peut y avoir jusqu'à 40 000 utilisateurs simultanément. Donc c'est là qu'on commence à avoir le côté un petit peu dubitatif de la chose, c'est que clairement, les serveurs d'Ark, il y avait 50 personnes, c'était déjà compliqué. Alors, sur Atlas, voilà, j'ai mis le simple doute. À savoir, du coup, qu'il sera possible à la fois de conduire son navire, mais aussi de mettre pied sur la terre ferme, comme dans Sea of Thieves. Sauf qu'il y a aussi, du coup, l'aspect construction qu'il y avait déjà dans Ark, mais qu'il n'y a pas dans Sea of Thieves, a priori, de vous pouvez construire un fort sur terre, construire votre propre navire, etc. Donc ça, pour le coup, a priori, ils devraient savoir le faire, puisqu'ils savent le faire dans Ark Survival Evolved.
Mais est-ce qu'ils savent le faire dans un jeu avec un framerate stable?
Voilà. Parce que, on l'a pas encore dit, mais le jeu arrive en Early Access le 13 décembre, donc c'est maintenant. Et alors, je vous déconseille très fortement d'acheter l'Early Access tout de suite, parce qu'on sait très bien comment ça va se passer, c'est-à-dire que ça va
déjà,
être comme
Ark. Ne vous fiez pas au trailer, parce que on se rappelle tous du trailer d'Ark Survival Evolved, de ce qu'on a eu.
Qui était superbe, d'ailleurs.
Voilà.
80% de marketing.
Ah oui, oui, c'est même pire que ça chez eux. À savoir que, évidemment, comme dans Sea of Thieves, ils essaient d'apporter un aspect un petit peu, il y aura des gros monstres, etc. Et là, ils vont vraiment à donf, c'est-à-dire que dans le trailer, tu vois une espèce de Moby Dick, tu vois une espèce d'élémental de feu, des choses comme ça, il y aura des divinités, des dragons, des trucs, ça part dans n'importe quoi.
Comme Ark, hein.
Mais soit. voilà, donc si ça vous intéresse, faites attention, attendez les premiers retours quand même, mais sachez quand même qui est derrière ce jeu, quoi.
En vrai, tu vois, si ça avait été fait par un autre studio, j'aurais potentiellement été très intéressé, parce que moi, le côté « je vais construire mon bateau », franchement, ça peut être cool, tu vois. Mais le problème, c'est que, connaissant l'historique du studio, déjà, le framerate qui va être dégueulasse, tu vas payer pendant des mois pour avoir un jeu qui, au final, sera pas du tout optimisé, donc voilà, bon, à un moment donné, je vais bien être con, tu vois, mais il y a des limites.
Ouais.
Mais pour vous dire, moi, je me suis fait tout un film, vraiment. Pendant qu'il y avait la bande-annonce, j'étais là, ah super, les mecs de Sea of Thieves, ils taffent, ça va nous faire un peu comme du Rainbow Six, où ça a commencé mollement, maintenant, ils vont mettre du contenu, tout ça, et puis après, je vois les mecs de...
Jeune innocent.
Ah, c'était les montagnes russes, j'ai fait, ah putain, les mecs.
Bon, par contre, les gens, sérieusement, là, je voulais vous poser une question. Qui est hypé par le remake de Crash Team Racing?
Bah, a priori, beaucoup de monde sur Internet.
Ouais,
mais pas
c'est
moi.
Ça, c'est ce que j'ai vu. J'étais sur Twitter, il y a plein de gens, ils sont vraiment, vraiment chauds. Mais, perso, voilà, t'as Mario Kart, tu joues de temps en temps.
Non, mais les gens, chers auditeurs, je vous invite à comprendre ces gens-là, ils ont une Switch. Vous voyez? Et ces gens, ils ne peuvent pas comprendre la frustration qu'ont les joueurs des autres supports,
oui,
tu vois.
C'est vrai, c'est vrai. Oui.
Qui n'ont pas d'équivalent, vous voyez, à part Sonic All-Star Racing,
c'est pas
qui
ouf,
est un très
priori.
Bon jeu d'ailleurs. Je m'insurge, monsieur, n'est-ce pas?
Pour certains, il est meilleur que Mario Kart.
Merci,
hein.
Désolé, je parlais d'ignorance.
Même le Crash Team Racing à l'époque, il était souvent comparé à Mario Kart 64. Mais alors moi, je suis pas impatient parce que j'y ai pas joué à l'époque, mais selon le dire de beaucoup de gens, ce CTR était mieux que Mario Kart. Après, je sais pas si les gens ont forcément joué aux deux jeux. Moi, à l'époque, j'étais plus sur Mario Kart parce que j'étais plus sur la N64. A4, c'était mieux, on va dire. Je comprends pourquoi les gens sont hypés par rapport à ça. C'est comme à l'époque, quand ils ont fait la compilation de Insane Trilogy, les gens étaient contents de retrouver Crash Bandicoot parce que c'était un jeu de leur enfance. Mais après, l'alternative, comme vous l'avez dit, on a déjà avec la licence Sega All-Star Transform et Sonic.
Ouais, mais tu vois, enfin, ça fait un jeu, quoi, qui est sorti longtemps en plus, hein, donc...
Oui, bon. Je trouve ça cool que Mario Kart, il soit plus seul en maître sur ce terrain-là. Après, je suis pas sûr que je vais acheter le jeu, parce qu'à l'époque, moi, ce type de jeu-là, j'y aimais parce que j'ai joué à plusieurs, alors qu'aujourd'hui, j'ai plus forcément le temps et des amis qui sont intéressés par ce genre de jeu-là. Je trouve que l'annonce est intéressante, après, faudra voir, quoi.
À préciser que le jeu est prévu du coup pour le 21 juin 2019 et que ça sortira sur PS4, Xbox One et sur Switch.
Bah moi le seul truc que je trouve dommage finalement c'est que bon voilà encore un remake quoi. J'espère en tout cas que les succès de tous ces remakes les inciteront à sortir un peu les doigts et finalement peut-être de redonner une chance à Crash, allez savoir.
J'aimerais bien hein, mais à chaque fois qu'on a dit ça on a été déçus. Hein.
Quoique, honnêtement, vu le Activision d'aujourd'hui, je suis pas sûr, en fait, que... Alors, vous voyez, Crash, on va vous mettre des costumes en DLC, dans des loot box. Les boîtes, tu sais, de Crash Bandicoot, là. Non,
oui,
mais c'est parfait, là,
c'est
pour
clair.
Des loot box.
Ouais.
On a déjà trouvé la skin
et tout, là.
Mais
après, vu comment Crash Bandicoot, enfin, la trilogie a bien vendu, c'est... Là, ça peut être possible, hein, parce que ça a vraiment cartonné, donc...
Ouais, mais le problème, c'est que Crash Bandicoot, ça n'a jamais été une licence qui a été morte. C'est juste qu'on n'entendait plus beaucoup parler parce que ça faisait plus vendre.
Ouais,
mais sur PS2, déjà, il y avait d'autres Crash Bandicoot. Et sur PS3 aussi, c'était genre... Il y a eu des trucs avec les Titans, d'autres Crash comme ça qui étaient un peu mineurs. Ça n'a jamais été une licence qui a disparu, sauf qu'on entendait beaucoup moins parler. Et quand tu parles aux gens, t'as l'impression qu'en fait, il y a que trois Crash Bandicoot. Alors qu'il y en a vraiment beaucoup.
Bah, c'est juste qu'à partir du moment où ils ont fait de la merde, les gens s'intéressaient plus, quoi. C'est nous. Enfin, voilà.
Et puis, encore faut-il avoir un studio pour développer ça, parce que ils trouvent les studios pour développer les remakes, parce que c'est facile, entre grosses guillemets, de faire ça. Mais de là à réimaginer un gameplay et tout ce qui va avec autour pour créer un nouveau jeu, là, c'est autre chose quand même en termes de budget.
Pourtant, Activision, avec tout le pognon qu'ils ont, franchement, ils pourraient être financés, quoi.
Ouais, surtout qu'un jeu de plateforme, c'est pas ça qui va leur coûter.
C'est ça. C'est pas comme si un jeu comme ça pourrait leur coûter vraiment grand chose. C'est juste qu'ils ont pas envie, quoi.
Et puis, c'est des gens qui font pas des jeux pour le prestige. Comme ont pu le faire EA et Ubisoft à des niveaux de succès différents. Là, en l'occurrence, chez Activision Blizzard, il y a absolument pas cette volonté-là de faire un truc en mode « parce qu'on peut le faire ». C'est toujours la rentabilité maximale du « on fait cet effort-là ». C'est parce qu'on sait qu'on va enclencher la cash machine. Enfin, je veux pas casser tous vos espoirs, mais j'y crois pas du tout.
Je n'ai absolument pas d'espoir, mon cher Morvan.
Mais Activision, en fait, les seuls jeux qu'ils ont fait un peu comme ça, qui sortaient du lot, hormis Call of Duty, c'était des jeux de commande qui a été fait à l'époque par Platinum Games, je pense aux Tortues Ninja et aux Transformers. Et quand on se dit, ouais, c'est Platinum Games, peut-être qu'ils vont faire quelque chose de cool, ça se voit très clairement que c'était des jeux de commande. Et ils ont aussi fait un jeu là qui était sur Avatar, qui était totalement dégueulasse, un des pires beat 'em all qu'on ait pu voir sur la génération précédente.
J'en ai tellement voulu, parce que moi qui suis fan d'Avatar, je me disais, putain, Avatar, Platinum, ça peut déchirer.
Ça va être trop cool.
Where do you think you are? Who do you think you're talking to? Nobody gets out of my domain, whether alive or dead. You wish to learn the hard way? Fine. Then go, get out. Don't let me stop you.
Wasn't planning on it, Father.
Bon, messieurs, on va maintenant parler du gros morceau de ces Game Awards, qu'on pourrait appeler les Epic Games Awards, en vrai, hein, parce que, en gros, c'est le moment qu'Epic a choisi pour passer l'offensive, n'est-ce pas? Donc, Epic Games, pour ceux qui étaient dans une grotte, a annoncé son store. Ils ont décidé de concurrencer Valve, hein, très clairement. Et ils ont annoncé pas mal de jeux exclusifs à leur plateforme. Alors, pas forcément des gros jeux, hein, soyons clairs, n'est-ce pas? Plus des choses par rapport à la tarification, enfin, au pourcentage qu'ils prélèvent, hein. D'où ma référence à la news précédente sur Valve, n'est-ce pas? Et je crois que ça a eu son petit effet, mon cher Morhan.
Oui, bah, ce qui est assez intéressant, c'est que ils essaient de prendre un petit peu les bonnes idées qui se font ailleurs. C'est-à-dire que le côté, on va vous donner en plus 2 jeux gratuits par mois. Ça, c'est plutôt quelque chose qui se fait côté console, pas chez Steam en l'occurrence. Histoire de vous dire... Bah les gars, en fait, nous on fait de la curation, parce qu'on va les chercher en fait, ces jeux, et on les met en avant parce que c'est des bons jeux a priori, de notre point de vue. Les deux premiers d'ailleurs, parce que cette offre-là du coup commence le 14 décembre, ça sera Subnautica, qui clairement, on le sait, est un bon jeu. Et le deuxième, ça sera Super Meat Boy, donc voilà, bon, il commence à dater, hein, on est d'accord, mais voilà, c'est histoire de dire, voilà les gars, on fait aussi ce travail-là. Et là où c'est hyper intéressant, tu parlais d'offensive, c'est qu'il y a un certain nombre de jeux qui ont été annoncés pendant les Game Awards qui ne mettent pas le logo Steam à la fin de leur présentation, mais mettent celui d'Epic Games. Je pense à The Pathless, notamment, qui est donc le nouveau jeu des développeurs d'Abzu, qui pour le coup, on n'a pas grand-chose à en dire à part que c'est très très beau. Mais, en l'occurrence, lui, voilà, il nous annonce que, bah, c'est sur Epic Games et on sait pas exactement si ça arrivera ailleurs. Pour l'instant, c'est Epic Games Store et rien d'autre. Donc, voilà, ils sont en train de dire, voilà ce qu'on veut faire. Après, évidemment, on parlait du Discord Store il y a quelques semaines. Il va falloir voir combien ça rapporte tout ça. On est à un carrefour de gens qui veulent tester si ça marche ou pas. On va parler d'Hades. Je pense que c'est Dwayne qui va en parler. Le jeu est sorti en Early Access et exclusivement sur Epic Games, me semble-t-il.
C'est ça. Ben, en fait, moi, au niveau de l'Epic Games Store, pourquoi je suis un peu plus confiant que pour Discord ou ce que Twitch a voulu tenter, c'est dans un premier temps à la puissance financière qu'a Epic Games et également par rapport à la stratégie. C'est-à-dire que eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il y a plusieurs choses qui vont pas. En fait, ils ont glané, on va dire, des années de feedback où on te dit qu'est-ce qui se passe sur Steam. Donc, t'as les marges au niveau, enfin, le 70-30 qu'on a sur tous les stores. Donc, ça, on va effectivement mettre plus de marge. Après, ça, c'est juste un premier pas. Ce qu'on a ensuite, c'est qu'il y a un problème de curation avec un bordel sans nom sur les différents stores. Les petits et les moyens n'ont pas assez de visibilité. Donc, ça, on va aussi leur en donner. Donc après, bah là, on parlait bah, justement d'Hades, qui est le nouveau jeu de Supergiant, et qui arrive, du coup, bah ça commence, c'est-à-dire qu'ils ont discuté avec Epic, et ce qu'ils se sont dit, bah c'est justement par rapport à cette visibilité qu'ils vont avoir, au fait qu'il y a de plus grosses marges, bah ils vont directement se lancer chez eux. Et donc après, bah le jeu en lui-même, bah il est plutôt sympa, mais c'est pas le sujet. C'est vraiment, voilà, ce genre de développeur un peu moyen et petit qui justement commence à se dire bah pourquoi pas tenter l'aventure avec Epic par rapport bah à cette nouvelle stratégie.
Et puis surtout ils font la drague aux développeurs hein, parce que je rappelle sur l'Epic Game Store, c'est 88% des revenus qui vont aux développeurs.
C'est énorme hein par rapport à ce que Steam donne.
Et pour tout le monde hein, tu vois, c'est pas genre oui, donc si tu vends pas assez machin, là ils disent 88% dans la page des développeurs, merci, au revoir. Donc quand même, ils y vont à fond. Bon, maintenant, honnêtement, moi je pense que ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que c'est pas les développeurs et c'est pas Epic qui décident si un store marche ou pas, c'est les utilisateurs. Et les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, écoutez, moi j'ai mes jeux sur Steam, installer un client, ça me fait chier. Je suis bien sur Steam et je vois pas pourquoi j'en installerai un autre. Et puis, si tu n'es pas sur Steam, tu n'existes pas. Voilà, moi je pense que c'est ce qui va se passer. On a quand même des plateformes super balèzes comme Twitch qui ont offert des jeux gratos à tire larigot. Enfin, moi, honnêtement, si j'avais pris tous les jeux gratos qu'on m'a filé sur Twitch, j'aurais plein de jeux dont je ne saurais pas quoi faire dans ma librairie Twitch. Hein. Mais le truc, c'est que je m'en fous, en fait, vous voyez. Et ça n'a pas marché sur Twitch, alors que Twitch, putain, Dieu sait qu'ils y ont mis les moyens hein, pour vendre des jeux, quoi. Donc, malheureusement, je suis pas sûr que en dehors de quelques exclus qui se lanceront là-dedans, il y en a beaucoup qui marchent sur un plan du revenu, quoi. Déjà, premier point. Ensuite, bon, par contre, moi, je suis désolé, enfin, il y a un truc qui me casse les couilles, c'est ce côté exclusivité, etc. Parce que, encore que Epic sorte ses jeux à lui sur son store et qu'ils veulent pas sortir chez Valve, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais qu'on commence à faire une politique de l'exclusivité sur tel ou tel store, etc., c'est un peu agaçant. Alors, on me dira, oui, mais après tout, c'est déjà ce qui se passe avec Steam. Il y a plein de jeux qui sont sur Steam qui n'existent pas sur GOG, par exemple. Oui, mais sauf que GOG, c'est un cas un peu particulier. C'est pas Valve qui a passé des accords avec les développeurs pour qu'ils ne sortent pas sur GOG. C'est juste que les développeurs ne veulent pas des jeux sans DRM, en fait, hein, tout simplement. Donc, voilà, c'est tout. C'est les développeurs qui ne sont pas intéressés. Là, on n'est pas dans le même cas figure. On a une boîte qui très clairement dit si tu sors le jeu en exclu chez nous, voilà, on va te filer certains avantages, quoi. Et ça, moi, je suis pas très chaud, quoi. Voilà.
Ouais. Alors après, j'ai pas encore regardé tous les détails parce qu'en fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment des accords purs en disant t'as une exclu pour tant de temps, etc.
Ah, ça, on n'en sait rien. En fait, on n'est pas dans les
voilà,
petits papiers.
Voilà, c'est ça.
De...
C'est en fait.
Mais j'imagine qu'ils ont quand même dû donner quelque chose pour que des mecs décident. Oh non non, on va pas sortir notre jeu sur Steam parce que oui, on vous aime bien chez Epic, hein, donc voilà, on va sortir le jeu chez vous en exclu. Enfin, j'y crois pas une seule seconde. Ils ont dû donner quelque chose en échange. Hein. Ah, je veux bien qu'ils croient au projet, tout ça, qu'ils se disent ah oui, 88% de revenus, c'est quand même pas mal, mais je doute très fortement qu'ils aient rien eu en échange du fait de ne rien sortir sur Steam.
Après ça, on verra, on aura plus de détails après, mais c'est vrai que ça, il faudrait voir également comment ça se négocie, qu'est-ce qui se passe à ce niveau. En tout cas, ouais, t'as raison. La flemme est une arme assez puissante, mais en même temps, ce que je me dis, bah, c'est si personne tente de se lancer sérieusement, bah, effectivement, il va rien se passer. Donc là, On est sur bah Epic, c'est quand même là maintenant avec Fortnite, l'un des plus gros devs. Enfin, ils sont valorisés très très haut, donc ils ont quand même les reins assez solides pour se lancer. Après, si ça se foire au niveau d'Epic...
Non, mais attends, je conteste pas qu'ils aient les reins solides, tout ça, si tu veux, mais je veux dire, les joueurs de Fortnite, ils s'en foutent des autres jeux. Hein. Pour eux, Fortnite, c'est leur vie, point, quoi, tu vois. Enfin,
non, ce que je veux dire...
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disent, regardez, maintenant, Epic avec Fortnite, ouais, ils ont une arme, une force de frappe énorme et tout. Bah non, je suis désolé, enfin... les joueurs de Fortnite, ce qui les intéresse, c'est Fortnite.
Mais Epic, il y avait déjà une force de frappe énorme avant, en fait. Epic, c'est avant tout des moteurs de jeu. C'est quand même aussi Gear of War. L'Unreal Engine, c'est eux qui l'ont créé. Il y a plein de studios, et même des Japonais aujourd'hui, qui utilisent l'Unreal Engine. Du coup, c'est un studio qui compte dans le jeu vidéo, bien sûr. Après, par exemple, le fait qu'il y a eu des accords qui ont été passés entre Epic Games et d'autres studios, ça n'a pas été dit. Mais tu comprends un petit peu les choses de manière tacite. Après, on connaît pas les détails, donc ça sert à rien d'épiloguer là-dessus. Mais moi, ce que je trouve aussi quand même intéressant, c'est qu'ils ont réussi à avoir Journey. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir Journey? Parce que c'est un jeu Sony à la base. Et là, du coup, le fait que c'est un jeu qui était exclusif aux plateformes Sony, donc PlayStation 3, et puis une version remastered sur PS4, c'est pas un jeu qui va parler à tout le monde, mais c'est un jeu qui fait du bien à l'industrie du jeu vidéo parce que c'est une expérience assez innovante en plusieurs points. Et le fait que ce gros jeu, qui était une exclusivité à la base console, arrive sur PC, ça démocratise un peu plus ce jeu-là, quoi, qui mérite d'être joué par le plus grand nombre. Et moi, je trouve ça vraiment super qu'ils ont réussi à choper une exclusivité comme ça de chez Sony. Après, c'est sûr, c'est pas Uncharted, c'est pas God of War qui vendent par millions, mais c'est quand même intéressant d'avoir eu ce jeu-là, quoi.
Ah oui, et sinon, évidemment, super épé par le nouveau jeu de Supergiant. Hein. Bon, ces gars-là, ils savent faire des jeux d'action, hein, on le sait. Comme d'habitude, la bande-son est pète, la DA, elle pète. Enfin, tout pète, quoi. Donc, vivement que le jeu sorte en version finale. Par contre, j'y toucherai pas en accès anticipé, parce que pour moi, toucher à ce genre de jeu en accès anticipé, c'est se gâcher le jeu au final, parce que tu sais, le syndrome, je joue à un jeu en accès anticipé et j'y touche pas à la sortie, j'ai surtout pas envie de l'avoir sur un jeu Supergiant, quoi.
Après, petit détail par contre, donc s'il y en a qui veulent vraiment le prendre en early access, moi j'ai eu des soucis par rapport à la dernière version de GeForce qui est sortie le 3 là, donc après j'ai fait une restauration, ça fonctionne bien, mais en tout cas apparemment ça plante avec la nouvelle version de GeForce, donc évitez de faire la mise à jour si vous y jouez.
Voilà, quelque chose à ajouter messieurs?
Non, bah comme d'habitude, on va attendre ce que ça donne. On est vraiment dans les débuts, hein, donc on est clairement dans du produit d'appel, que ça soit pour les développeurs comme les utilisateurs. Faut voir ce que ça donne par la suite. Moi personnellement, j'ai pas spécialement envie de partager tout de suite mes données personnelles avec un autre store. Donc on va attendre.
C'est vrai que ça commence à faire beaucoup sur PC hein, en ce moment avec.
C'était une critique
que j'avais déjà fait avant, mais. Là, ça se multiplie de plus en plus, et quand même, vous le dites, la flemme, quoi.
J'ai un peu peur qu'au final, on se retrouve dans la situation où une grosse boîte, un store, une grosse boîte, un store, une grosse boîte, un store, tu vois. J'ai rien contre la concurrence, encore une fois, mais c'est juste que, si vous voulez, pour que j'aille sur un autre store, il va falloir me proposer autre chose que des exclus, en fait. Il faut me proposer des fonctionnalités, en fait, des services qui me donnent envie. Par exemple, pourquoi je suis allé sur GOG? Parce que ben le DRM free pour moi voilà c'est important tu vois donc c'est pour ça que je suis dessus. Donc si Epic a quelque chose à me proposer qui m'intéresse, j'irai, il y a pas de souci. Par contre, si c'est juste histoire de sortir un clone de Steam et on va te forcer à télécharger notre jeu sur notre store parce que ces jeux ils sont en exclus chez nous, honnêtement les jeux, à moins que ce soit vraiment des jeux mais indispensables, tu vois, ça va être dur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais,
donc l'avenir nous dira s'il faut passer là-bas ou pas. Pour l'instant, c'est un point d'interrogation pour moi. Comme Discord l'a été la dernière fois, hein, mais bon, on verra.
Voilà. Bon, messieurs, écoutez, ce fut un podcast court, mais ça fait du bien de temps en temps. Hein. Surtout pour le monteur. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, pour le dernier podcast de l'année, hein, parce que ce sera le dernier podcast. Hein, ne comptez pas sur moi pour faire un podcast à Noël. Hein, je serai en famille, faut pas déconner non plus. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier podcast de l'année. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Ciao.